Alors, votre vie ressemble peut-être à une tour ce matin. Quand vous êtes né, vous formiez tout, mais à un moment donné, quelque chose s'est passé et votre vie a été complètement brisée. Par exemple, vous vous êtes marié avec la conviction que c'était pour la vie. Vous vous êtes retrouvé un jour à rejoindre le club des divorcés. Vous avez été abusé dans votre enfance et malgré le fait que ce n'était pas votre faute, vous avez beaucoup de mal à gérer vos émotions depuis ce jour-là. Et ce, malgré le fait que vous laissez paraître que tout va bien dans votre vie. Mais au fond de vous-même, vous êtes en mille morceaux. Vous avez été initié à l'alcool, tôt dans votre adolescence, et vous avez pris l'habitude de boire. Et au fil des années, vous avez rejoint ceux qui ont un problème avec l'alcool. Vous essayez de le cacher aux membres de votre famille, et pourtant, non seulement votre épouse le sait, vos enfants le savent, et vous, vous le savez aussi. Vous essayez de vous en sortir par vous-même et vous retombez à chaque fois parce que vous êtes devenu un esclave de l'alcool. Si vous avez déjà connu des échecs, si vous avez déjà emprunté un mauvais chemin, si vous avez déjà fait de mauvais choix qui vous ont causé beaucoup de problèmes au fil des années et que vous êtes découragé, voire même déprimé, vous devez écouter attentivement cette histoire ce matin parce que ce que vous pouvez apprendre de cette histoire, c'est ceci. Lorsque vous venez à Jésus, il vous reçoit avec un esprit de grâce qui vous libère et non pas avec un esprit de jugement qui vous enfonce davantage. Vous êtes amen à ça ce matin.
Amen.
Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, ce matin, parce que, Seigneur, si nous sommes présents dans ce lieu, c'est parce qu'un jour nous avons entendu parler de toi. Tu as touché nos cœurs et, Seigneur, nous te demandons de toucher le cœur de notre voisin, afin qu'ils puissent se trouver la même paix, la même joie et la même espérance que nous avons. Et Seigneur, nous ne l'en voulons pas, car tu nous as dit à travers Jésus que ceux de ce monde avaient tous pour père le diable, et nous savons, Seigneur, qui le dirige, qui l'inspire, Seigneur, à essayer de nous déranger. Et Seigneur, nous voulons te le confier ce matin. Seigneur, afin que s'il est capable d'entendre la musique, qu'il puisse entendre des paroles de la prédication et que ton esprit puisse faire son œuvre dans son cœur. Seigneur, tu nous as demandé d'aimer nos ennemis. Eh bien, nous l'aimons, Seigneur, parce que nous savons que tu veux, lui aussi, Seigneur, le sauver comme tu le voulais pour nous aussi. En attendant, Seigneur, que nous puissions nous réjouir de le voir venir à toi, Seigneur, ce matin, nous voulons faire en sorte que cette parole, eh bien, puisse non seulement toucher nos cœurs, mais aussi percer, Seigneur, notre forteresse, si tel est le cas ce matin. Seigneur, tu connais nos besoins. Moi, je ne peux lire que sur les visages, je ne peux pas lire dans le cœur des gens. Toi, tu connais les besoins, tu connais, Seigneur, les forteresses qui empêchent ces gens de te connaître pleinement, d'être libérés pleinement de la puissance que le péché exerce dans leur vie, de la puissance que le diable exerce dans leur vie, de la puissance que le monde exerce dans leur vie. Eh bien, Seigneur, que l'homme puisse s'effacer ce matin et que ton esprit puisse prendre toute la place qui lui revient, afin, Seigneur, que nous puissions te voir manifester ta gloire au milieu des tiens ce matin. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit,
amen,
amen. Permettez-moi d'abord de vous donner le contexte dans lequel se situe cette histoire. Donc, c'est dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. On peut le projeter. Moi, j'ai utilisé la français courant. Donc, je vous dis pas que c'est une bonne Bible d'étude. Faut pas étudier de la français courant, mais c'est plus facile à comprendre pour ceux qui sont pas nécessairement familier avec la parole de Dieu. Il est écrit, verset 2, que tôt le matin, Jésus se trouve à l'extérieur du temple en train d'enseigner à un petit groupe venu l'entendre. Et sans crier gare, verset 3, les scribes et les pharisiens font leur apparition en traînant derrière eux une femme prise en flagrant délit d'adultère qu'ils placent finalement devant tout le monde. Alors, vous imaginez un petit peu hein, le style des pharisiens, ça arrive, on a trouvé une femme en train de commettre l'adultère. Et là, ben, j'ai l'impression, j'entends les pharisiens qui descendent, qui viennent vers la place, parce que c'est là que Jésus est, et elles descendent vers la place en criant « Adultère, adultère! » On ne sait pas dans quel état se trouvait la femme, habillée ou plus déshabillée qu'habillée, mais c'était un spectacle. Cette femme, ils viennent l'amener, c'est pas une femme qu'ils viennent apporter devant Jésus, c'est un morceau de viande, parce que les pharisiens, ils n'en avaient rien à cirer de cette pauvre femme bien-aimée. Ils avaient quelque chose derrière la tête, et c'est ce que cette histoire va nous montrer ce matin. Et peut-être que vous allez vous sentir interpellé par cette histoire ce matin. Parce que c'est aussi un être humain qui va vivre cette histoire. Une femme, une pauvre femme, qui va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et à travers son péché, Dieu va lui permettre, parce que le péché, Dieu va lui permettre de rencontrer le Seigneur Jésus. Et souvent, bien-aimés, dans nos malheurs, dans nos propres péchés, le Seigneur va utiliser des circonstances et des situations qu'il va utiliser, pour nous amener à le rencontrer, bien-aimés, à rencontrer le Seigneur Jésus comme il l'a fait dans ma propre vie il y a maintenant 37 ans, 38 ans, 39 ans. La mémoire nous est, il n'y a rien qui s'améliore en vieillissant, hein? Je pense juste à la vessie et à la prostate. Hein? Vous savez, les hommes, là, hein, qui ont en haut de 60 ans, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais Dieu est bon parce qu'à un moment donné, il va renouveler toutes choses. Et tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ça va fonctionner en parfaite symbiose avec l'éternité. Ces représentants de la loi n'étaient pas venus pour écouter l'enseignement donné par Jésus. Ils étaient venus, bien aimés, pour piéger Jésus. Et le péché de cette femme était l'occasion rêvée pour eux. En fait, ils n'en avaient rien à cirer, comme je l'ai dit, du sort qui était réservé à cette pauvre femme. Elle était juste une sorte de pion sur l'échiquier de cette confrontation qui allait avoir lieu avec Jésus. Et malgré le fait qu'ils étaient très religieux, les pharisiens n'étaient pas du tout attachés à Dieu, bien-aimés. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. Est-ce que vous faites la différence avec ça? Connaître la parole de Dieu ne veut pas dire que nous sommes nés de nouveau. Mais connaître, on peut vivre une religion. Mais connaître le Dieu de la parole, c'est avoir une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire qu'on est chrétien sans être né de nouveau, mais être chrétien né de nouveau, c'est avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est voir une différence avec notre vie passée. Jean Culot, il est né de nouveau il y a 39 ans. Il est incapable de commettre les mêmes péchés dans lesquels il baignait il y a 39 ans passés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui habite en moi maintenant. Et il y a quelqu'un, c'est l'esprit de justice, c'est l'esprit de sainteté, qui me dit, écoute, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tes désirs ne peuvent plus être tournés vers ces choses que tu faisais avant. Elles vont être maintenant se tourner vers ce que Dieu te réserve. Et bien aimé, j'ai bien aimé la présidence de notre frère Francis ce matin, parce qu'on a parlé de sainteté, on a parlé de promesses et tout ça. Et ce que Dieu veut nous amener à travers tout ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les mauvais côtés, les mauvaises choses que nous commettons, et ainsi de suite, je dirais même à travers la maladie, à travers les épreuves, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Après nous avoir sauvés, le but principal, et je le répète, je l'ai peut-être dit ici, c'est que de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Ça peut être à travers la maladie, ça peut être à travers les épreuves, ça peut être à travers des choses courantes de la vie, ce que Dieu veut faire. Pourquoi il veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ? Parce que Dieu veut se glorifier à travers vous. Et quand, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu, parce qu'ils avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le péché, c'est ce qu'ils ont perdu en péchant. Et quand vous venez à Jésus-Christ, le but premier de Dieu pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est de leur redonner cette image et cette ressemblance que nous avons perdue avec le premier Adam. C'est ce que le deuxième Adam, le dernier Adam, nous... C'est ce que Paul dit, c'est ce que le deuxième Adam veut nous transmettre à travers la parole. Et c'est important, bien-aimés. C'est important. On ne doit pas être obligé de porter un t-shirt « Je suis chrétien » en avant ou dans le dos pour que les gens puissent découvrir que vous êtes chrétien. Dites « Amen » à ça. Celui qui m'a parlé du Seigneur la première fois, avant qu'il m'en parle, parce que je n'ai pas été facile, c'est ses yeux. C'est ses yeux, bien-aimés. J'ai entendu une petite voix qui m'a dit dans mon cœur, lui, ce qu'il a, ça fait des années que tu cherches ce qu'il a. Il y avait une vie dans ses yeux, je ne suis pas capable d'écrire, bien-aimés. Mais qui ont capté mes pensées sur ce qu'il disait, qui ont capté mon cerveau sur ce qu'il disait. Lui, il a ce que tu cherches depuis toujours. Bien-aimé, quand les gens nous voient, là, on devrait être quelqu'un de spécial pour ces gens-là. Dire, cette personne-là, elle a une joie de vivre, elle a une paix que je ne comprends pas, que mes médicaments ne peuvent pas faire disparaître, que la boisson ne peut pas faire disparaître, que la drogue ne peut pas faire disparaître. Et c'est ça quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, maintenant je monte en haut, vous serez la lumière du monde. Et j'attirerai à travers vous les gens bien-aimés. Bien-aimés, est-ce que vous réalisez la mission? Paul en parle en Corinthiens, après avoir été sauvé, la tâche que vous avez maintenant, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Ça prend pas un don d'évangélisation. Un don d'évangélisation, c'est autre chose. L'évangéliste dans l'Église, c'est le coach. C'est le coach qui est là pour former les membres dans l'Église, pour leur montrer comment avoir un contact avec les gens. Mais vous êtes tous des évangélistes, si vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous, bien-aimés. Vous êtes tous des évangélistes. Faites simplement partager aux gens votre vie avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, puis votre vie après. Que vous soyez né dans l'Église ou pas, bien-aimés. Parce qu'un jour, même si vous êtes né dans l'Église, vous avez pris une décision. Vous avez reconnu que j'étais un pécheur. Vous n'êtes pas des gros péchés comme moi j'ai connu, comme d'autres ont péché, les gens du monde. Mais vous êtes venu au monde avec le péché qui habite en vous, donc vous devez quand même le confesser, ça. Vous repentir, dire « Seigneur, je me repens, même si je suis né dans l'Église, j'ai péché, j'ai désobéi à ta loi. Et Seigneur, je demande pardon. » C'est pas parce que tu es rendu à 14-15 ans que tes parents te donnent un coup de coude, bien, il serait peut-être temps que tu fasses baptiser. C'est pas ça, la vie chrétienne, hein, bien-aimé. La nouvelle naissance, c'est une rencontre personnelle et intime avec Dieu qui te bouleverse. Encore plus que le jour où tu as rencontré ta femme pour la première fois. Encore plus que le jour que tu as rencontré ton mari pour la première fois, ton futur mari. C'est une rencontre qui ne s'oublie pas, bien-aimé. Et cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, va faire une rencontre qu'elle n'oubliera jamais dans sa vie, bien-aimé. Parce que ce n'est pas une prostituée. C'est une femme mariée. Bien-aimée. Ou qui a couché avec un homme marié. Mais c'est elle qui est condamnée. C'est elle qui est accusée par les pharisiens. Et l'histoire, elle est fantastique parce qu'on va tout se retrouver dans cette histoire. Je vous vends déjà la mèche. Dans cette histoire, vous allez être soit le pharisien, soit la femme. Vous allez occuper soit la place du pharisien, soit la place de la femme. Et vous allez sortir de ce lieu grandi, bien-aimé. Parce que premièrement, j'ai prié pour que Dieu vous fasse sortir d'ici grandi. Vous êtes quand même venu ici pour recevoir, bien-aimé, n'est-ce pas? Qui? Levez la main de ceux qui sont venus ici pour recevoir quelque chose. Vous êtes venu ici pour recevoir une bénédiction ce matin. Vous êtes venu ici pour que Dieu vous visite dans votre cœur ce matin. Vous voulez être rempli. Vous voulez sortir d'ici rempli beaucoup plus que quand vous êtes rentré ici, bien-aimé. Je t'amène à ça.
Amen.
Amen. On a déjeuné ce matin, eux autres. Magnifique, magnifique. Alors, les pharisiens, c'était des gens orgueilleux, sûrs d'eux-mêmes, arrogants, impitoyables dans l'application de la loi, rusés et très hypocrites. Comme nous allons le voir dans cette histoire, les hypocrites sont les pires juges parce que leur zèle a condamné cache souvent un cœur mauvais. Et avant de continuer, nous devons mentionner, bien-aimé, que le texte que nous apprêtons à examiner soulève des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Par exemple, quel était le statut civil de cette femme? Était-elle célibataire, fiancée, mariée ou divorcée? Le texte ne le dit pas. Avait-elle eu une ou plusieurs relations sexuelles dans le passé avec l'un de ses accusateurs? Le texte ne le dit pas. Quel âge avait-elle? Était-elle très jeune ou avait-elle un certain âge? Le texte ne le dit pas. Tout ce que nous savons d'elle se trouve dans ce texte. Tout le reste n'est que pure spéculation. La deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est de quelle façon a-t-elle pu être prise en flagrant délit d'adultère en plein jour? Encore une fois, le texte ne le dit pas. Cependant, il y a quelque chose de louche ici, car étant donné que l'adultère était un crime punissable de la peine capitale, c'est-à-dire la lapidation, la loi exigeait que toute accusation soit corroborée par quelqu'un qui avait été témoin du délit d'adultère. Il ne suffisait pas de dire « Je les ai vus tous les deux entrer dans la chambre, accoucher, sortir quelques minutes plus tard ». Un témoignage par oui-dire n'était pas accepté face à une accusation aussi grave. Comment alors en sont-ils arrivés à prendre cette femme en flagrant délit d'adultère? Le texte ne le dit pas. La troisième question en est une qui va vous intéresser, mesdames. Où est l'homme dans cette histoire? Où est l'homme? Tu ne connais quand même pas l'adultère tout seul, hein? Où est l'homme? Par définition, le péché d'adultère exige qu'il y a deux personnes impliquées. Il est fort étrange que l'homme ait pu échapper, mais pas la femme. Nous pouvons en déduire que c'était peut-être un coup monté de la part des pharisiens, c'est-à-dire que ces religieux avaient peut-être eux-mêmes planifié ce péché et qu'ils étaient probablement prêts à commettre un meurtre tellement ils détestaient Jésus. Peut-être que l'homme impliqué dans cette histoire avait été approché par quelqu'un représentant les autorités religieuses qui l'avait persuadé de séduire cette femme afin de pouvoir le prendre en flagrant délit d'adultère et qu'après un arrangement pris avec l'homme, il était convenu de le laisser quitter les lieux le plus rapidement possible parce que je rappelle que le but visé, c'était de prendre Jésus au piège. Finalement, cela nous amène à une quatrième et dernière question. Pourquoi ont-ils dénoncé publiquement cette femme? Non seulement ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils n'étaient surtout pas obligés de l'amener devant Jésus. Il est évident qu'ils ne cherchaient pas seulement à la punir, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sinistre qui avait été planifié ici. Verset 3, la deuxième partie du verset 3. Il est écrit qu'ils placèrent la femme au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, Jésus, que dis-tu? » Frères et sœurs, les pharisiens et les scribes savaient que cette femme était coupable. Cette femme savait qu'elle était coupable. Tout le monde savait qu'elle était coupable et Jésus savait qu'elle était coupable. Imaginez le sourire des pharisiens qui devaient afficher sur leur visage parce qu'ils étaient convaincus qu'ils venaient de coincer Jésus en lui posant cette question. Frères et sœurs, cela aurait pu fonctionner si on avait été en présence d'un enseignant ordinaire, mais ils avaient affaire non seulement au Fils de Dieu, mais à celui-là même qui avait transmis la loi à Moïse à l'époque, bien-aimé, puisque Jésus est Dieu fait homme. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jésus s'apprêtait à renverser les rôles et à faire échouer ce projet diabolique monté de toutes pièces par les religieux de son époque. En présentant cette femme à Jésus, les dirigeants juifs espéraient amener le Seigneur à contredire non seulement ce qui était écrit dans la loi de Moïse, mais à le prendre en défaut aussi par rapport à la loi romaine. S'ils disaient qu'elle devait être mise à mort, ils seraient considérés comme étant rebelles aux autorités romaines, puisque les Juifs n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à la peine capitale. Voilà pourquoi on avait amené Jésus devant Ponce Pilate. Parce que les religieux n'avaient pas le droit de faire condamner quelqu'un à mort. S'ils disaient qu'il ne devait pas être mis à mort, les autorités religieuses auraient pu accuser Jésus d'agir de façon contraire à ce qui était écrit dans la loi, ce qui les mettait en total désaccord avec Moïse, bien-aimé. Alors, il était coincé des deux côtés. Mais la réponse de Jésus, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui pouvait donner cette réponse-là. Que Dieu. Il y a tellement de réponses quand je lis les évangiles que Jésus a donné qui sont à couper le souffle, bien-aimés. Tu dis, il n'y a pas un homme qui aurait pu penser sortir une affaire semblable. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu merveilleux! La loi était très claire. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Lévitique 20, chapitre 20, verset 10. Si la loi devait être appliquée, cette femme devait être exécutée à l'endroit même où elle se trouvait. Et si Jésus avait dit, eh bien, tu as raison, c'est ce que dit la loi, nous devons donc la tuer, alors tout le monde saurait maintenant que Jésus n'était pas vraiment l'ami des pécheurs. Quelle sera la réponse de Jésus? Il va mettre en lumière ce que ces religieux cachaient au plus profond d'eux-mêmes. Verset 7 et suivant. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ah, ça fait des siècles, hein? Je pense que depuis que Jésus monte au ciel, que les gens essaient de savoir qu'est-ce qu'il écrivait par terre. Vous êtes-vous déjà posé la question, vous aussi? Moi, je me suis posé la question. Je n'ai pas de réponse nette à vous donner, puisque si la Bible ne le révèle pas, c'est que ce n'est pas nécessairement nécessaire pour faire augmenter la mesure de foi. Mais on se pose la question, hein? On se pose beaucoup la question. Et il écrit au verset 9 que lorsqu'ils entendirent Lorsqu'ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Et qu'est-ce qu'il avait... Je vais continuer. Peut-être que les plus âgés sont partis les premiers parce qu'ils avaient commis plus de péchés dans leur vie. C'est possible, hein? C'est la seule. Avez-vous trouvé d'autres explications que celle-là? Moi, je me suis dit, les plus âgés sont partis parce qu'ils avaient commis plus de péchés dans leur vie, puisque Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, c'est mon explication. C'est l'explication que je peux vous donner, quoi. Mais la Bible ne le dit pas. De toute façon, ils savaient, ces gens-là, qu'ils n'étaient pas innocents. Alors, ils ont voulu piéger le Seigneur, mais ils ont fini non seulement par être eux-mêmes piégés par lui, mais ils ont été démasqués par sa pureté morale lorsqu'il a mis en lumière leur complot diabolique. Je peux vous dire qu'il devait y avoir un silence de mort, bien-aimés, car les paroles de Jésus visaient à leur rappeler non seulement la gravité de leur accusation, mais les motifs qui les poussaient à agir ainsi. Ils étaient venus pour parler de la femme. Jésus était finalement venu pour parler d'eux, bien-aimés. Il avait vu non seulement le péché de cette femme, mais il avait surtout vu l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Bien-aimés, comparé à eux, la femme, elle paraissait presque innocente, bien-aimés. Leur péché était bien plus grand que le sien parce qu'il s'était exprimé en utilisant des paroles qui laissaient entendre qu'il ne cherchait qu'à faire en sorte que la loi de Dieu soit respectée. Quels hypocrites, bien-aimés! Finalement, il y avait plus d'espoir pour cette femme pécheresse que pour ces pharisiens hypocrites. Ayant été surprise en flagrant délit d'adultère, elle était plus près du royaume de Dieu qu'eux. Elle n'a jamais nié son péché, tandis que ces pharisiens et ces scribes n'ont jamais admis qu'ils avaient déjà péché. Regardons maintenant comment le Seigneur va traiter le péché d'adultère de cette femme. Versets 10 et 11. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, mais moi non plus, je ne te condamne pas, et va désormais, ne pêche plus. Il a traité son péché avec une parfaite honnêteté. Il lui a accordé la grâce et l'espérance d'une vie meilleure. Il a pardonné son péché et il l'a libérée pour qu'elle commence une nouvelle vie. Bien-aimés, quand vous prenez une décision pour le Seigneur, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour commencer une nouvelle vie, non pas avec des nouveaux péchés, mais sans péché, bien-aimés. Avez-vous remarqué qu'on ne prêche jamais sur la première épître de Jean? Avez-vous remarqué? Lisez-la, là, avec concentration, vous allez tomber à genoux, vous allez pleurer, bien-aimés. Pourquoi ça a été écrit? Pour une raison, la première épître de Jean. Parce que l'Église du premier siècle avait déjà commencé à prêcher une grâce à bon marché. Ah, j'ai été pardonné une fois, pardonné toujours, sauvé toujours un jour, sauvé un jour, sauvé toujours. Maintenant, les péchés d'aujourd'hui, les péchés de demain sont déjà pardonnés. Et dans son épître, Jean dit, ceux qui affirment appartenir à Jésus doivent vivre comme Jésus a vécu. Sans l'Esprit de Dieu qui habite en nous, sans avoir passé par la nouvelle naissance, il est impossible de mettre en pratique ce verset. Ceux qui affirment connaître Jésus-Christ doivent vivre comme Jésus a vécu. Pardon, Seigneur, parce que ce n'est pas toujours mon cas. Pardon, Seigneur, parce que j'aimerais bien que tu puisses agir dans ma vie pour que je ressemble davantage jour après jour à la personne de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci, Seigneur, parce qu'en faisant de nous tes ambassadeurs, tu joues ta réputation à travers moi. Tu joues ta réputation à travers nous, Seigneur. Et ton Église te demande pardon. Parce que bien souvent, au lieu de t'honorer, nous te déshonorons à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers nos pensées. Vous dites amen à ça ce matin? Oui. Ouais. Quelle patience Dieu a envers son Église, bien-aimé. Quelle patience Dieu a envers ceux qui se disent ses enfants, ceux qui se disent sauvés par grâce, ceux qui ont l'espérance, finalement, de vivre sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel pour passer l'éternité dans sa présence. Cette femme, elle était beaucoup plus proche du royaume de Dieu que ces pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui ne connaissaient pas le Dieu de la parole. J'ai rencontré quelqu'un là, qui est pris dans la drogue, qui est né dans l'Église, qui est pris dans la drogue et la boisson. Après sa première semaine, quand il a touché son chèque, quand on a fait son VR, quand on a déposé l'argent dans son compte, il est obligé d'aller voir ses pocheurs pour emprunter la drogue pour les payer le mois prochain. Qui se dit chrétien, qui crie à tout vent et de tous côtés qu'il est chrétien. J'ai pris du temps avec, j'ai vu que je perdais mon temps. Il se moquait de Dieu et je lui dis ceci. Ne dis plus jamais à personne que tu es chrétien, tant et aussi longtemps que ta vie ne reflètera pas celle de Jésus-Christ. Tu déshonores le Seigneur. Bien-aimé, on a une grande responsabilité devant Dieu. Je ne vous juge pas, bien-aimé. Non. Je tiens juste à vous rappeler que au prix qu'on a été sauvés, je pense que c'est le minimum que le Seigneur puisse nous demander de ressembler à la personne de Jésus, bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 29. C'est le minimum. Et il n'exige pas quelque chose que nous sommes incapables d'arriver, puisqu'il nous a donné son esprit de sainteté en nous, pour que nous puissions y arriver. Gloire à Dieu pour cela, bien-aimé. Il nous aurait pu nous dire, écoutez, maintenant, je vous ai sauvé, tirez votre plan. Moi, ce que je veux, c'est que vous ressembliez à Jésus-Christ. On n'a aucun outil, rien dans les mains pour y arriver. Mais ça a été épouvantable. Mais Dieu dit, je vous ai tout donné. À partir de Jésus, je vous ai tout donné pour que vous arriviez à lui ressembler. Wow! Bénissez ceux qui vous maudissent. Il le montrait à la croix, Père, pardonne-leur quand ils savent pas ce qu'ils font. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pas trop loin de vous, là. Il ne nous demande pas de juger, hein. Il nous demande de prier pour lui. Parce qu'il fait pitié, ce bonhomme-là. Il est perdu, bien-aimé. Vous savez ce que c'est, l'enfer, hein? C'est pas une joke, hein? C'est pas une farce, hein? L'enfer, c'est le pénitencier que Dieu a fait pour ceux et celles. En premier, il l'avait fait pour le diable et c'est. Pour le diable et ses démons, on a dit. Mais en chutant, ben, l'homme se rajoute aux anges et se rajoute aux anges déchus et au diable. Mais la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, c'est que tous parviennent au salut et à la repentance. Est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu a créé des gens pour être perdus et des gens pour être sauvés? Ça fait pas partie de la grâce de Dieu, hein? Quand l'homme a péché, l'homme n'a pas perdu son libre arbitre. Puisque quelques versets après, Isaac 1, le péché qu'on met monstre, tapis à ta porte, il cherche à te dominer, c'est à toi d'en être le maître. Donc, Caïn n'avait pas perdu son libre arbitre, bien-aimé. Nous serons responsables devant Dieu de l'endroit où nous allons passer l'éternité. Et ce qui est triste, c'est dans l'époque dans laquelle on vit, il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu le vrai message de l'Évangile parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités, bien-aimés. Nous avons démissionné. Nous prêchons un Dieu qui ressemble au Père Noël et à Saint-Nicolas qui distribue des bonbons à droite et à gauche. Nous prêchons un Évangile, nous entendons un Évangile à l'eau de rose et les gens ne sont pas atteints par cela, bien-aimés. Parce qu'on a mélangé des philosophies humaines, humanistes, à travers notre message. On a pris Saint-Esprit, on l'a foutu dehors en lui disant, humainement parlant, on est capable, avec notre philosophie, on est capable de convaincre les gens. C'est pas à nous de convaincre les gens. Vous dites amen à ça, hein? Ouais. Au début de ma conversion, moi, j'évangélisais, j'essayais de convertir. À un moment donné, j'étais épuisé. Non seulement épuisé, mais découragé. J'ai dit au Seigneur, j'évangélise plus. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, « Oui, mais c'est parce que tu fais deux jobs à la fois. Tu fais la tienne et tu fais la mienne. » Ah, j'ai dit, « Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? » Moi, je t'ai appelé à évangéliser, mais la conversion, ça m'appartient. Si tu veux t'user au travail, continue, tu vas te crever. Tu vas te crever au boulot. Évangélise, et c'est moi qui convertis. C'est moi qui touche les cœurs. Et pour que je puisse toucher les cœurs, prêche ma parole. Prêche pas ce que tu penses qui est bien, ce qui est mal. Prêche ma parole, parce que c'est à travers ma parole que moi je vais atteindre le cœur des gens. Les convaincre de péché, de justice et de jugement. Et gloire à Dieu qu'il y a encore des hommes qui se tiennent debout pour proclamer cette parole. Vous dites amen à ça ce matin. Ce qui est drôle, c'est que Jésus était le seul qualifié pour lapider cette femme et il ne l'a pas fait. Jésus n'étant pas celui qui avait été témoin et ceux qui avaient été témoins ayant quitté les lieux, les charges avaient été abandonnées. La femme était maintenant libre de partir. Lorsque Jésus demande à la femme au verset 10 où sont ceux qui l'accusaient, car personne ne l'avait finalement condamnée, elle n'a pas répondu « Personne, monsieur ». Écoutez bien quand je vous dis qu'elle était beaucoup plus proche du royaume de Dieu que les pharisiens. Regardez ce qu'elle va répondre. Elle n'a pas dit « Personne, monsieur ». Personne, Seigneur! Personne, Seigneur, bien-aimé! Elle n'a pas cherché à excuser son péché. Elle a plutôt attendu que le Seigneur rende son verdict. Elle venait de déclarer par la foi, et ce de manière très brève, que Jésus était le Seigneur. Vous avez accepté le Seigneur comme sauveur, bien-aimé. Qui a accepté le Seigneur comme sauveur? Levez la main. Comme ça. Qui a accepté maintenant le Seigneur comme sauveur et Seigneur? Ah oui, hein? Bien-aimé, ça peut prendre toute une vie pour qu'un chrétien réussisse à comprendre que Dieu veut être son Seigneur. Le boss de sa vie, bien-aimé. Et quand on vient au Seigneur, on a quelque chose tous à renoncer. Vous êtes nés dans l'Église, vous n'avez pas fait de gros péchés, je comprends, et gloire à Dieu pour ça. Parce que vous avez été couverts, vous avez été bénis d'être nés dans une Église. Mais même si vous êtes nés dans l'Église, vous avez besoin de renoncer à quelque chose, à un péché. On a tous besoin de renoncer à un péché. Si quelqu'un veut venir avec moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me sauve, qu'il me suive, pardon. Le péché que nous avons tous à renoncer, c'est qu'à partir du moment où on prend une décision que Jésus-Christ est sauveur, et pas juste sauveur, mais Seigneur, c'est de renoncer dorénavant à être le Seigneur de notre vie, à être le Dieu de notre vie. C'est-à-dire, c'est nous qui allons décider, c'est terminé, c'est plus nous qui allons décider ce qui est bien et ce qui est mal, bien-aimé. Maintenant, on va se soumettre, pas à la loi de Jacques Hudon, mais à celle qui est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Moi, je trouvais que c'était pas trop mal, ça, ouais, mais c'est un petit péché. Non, mon œil, Dieu dit, c'est un péché. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de petit, de grand, ni de moyen péché. Un petit péché, bien-aimé, ça suffit. Amen! Ouais. Bien-aimé, je fais le tour des églises, moi. Je les fais presque toutes. Et malheureusement, je ne parle pas des APEB, hein, je parle d'autres familles d'églises. Mais il y a une pauvreté spirituelle dans nos églises, bien-aimés, qui fait peur. Vous allez dans certaines églises, vous regardez la présidence, vous avez l'impression d'entrer dans une salle de spectacle. Hein. C'est une blague derrière l'autre, puis ça ne lâche pas, quoi. Vous allez à un autre endroit, celui qui préside, vous avez l'impression qu'il est soigné pour une grave dépression, quoi. Il vous parle, « Ouais, comment ça a été? Moi, ça n'a pas été facile. Hein? Encore près que mes péchés. Hein? » Ça te remonte pour un culte, hein? Ouais. C'est terrible, bien-aimé. La semaine, elle ne doit pas avoir été facile pour personne. Mais la présence de Dieu ne nous a jamais fait défaut, bien-aimé. Notre frère avait raison, on ne prend presque plus la parole de Dieu au sérieux. On ne peut que grandir à travers notre frère, je parle de Francis dans sa prison, on ne peut que grandir si on lit, on médite les Écritures. Sinon, on est toujours au lait. Toujours. Celui qui m'a amené au Seigneur, le premier qui avait les yeux brillants, là, hein, il m'a dit deux choses. Et il connaissait ça, il était persécuté, on lui a lancé des petites pierres parce qu'il était protestant au Québec. Hein. Ouais. Il m'a dit deux choses, Jacques. J'ai deux conseils à te donner. Lis ta parole à tous les jours et garde tes yeux fixés sur Jésus. Il avait raison, bien-aimé. Bien-aimé, la crédibilité de Jésus, là, il l'a accompli sur la croix. Il a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Il en a rajouté, puis a parlé du pardon. Et sur la croix, en plus, les deux malfaiteurs, au début, si vous lisez dans un autre évangile, les deux ont comment, ils l'insultaient. Et il y en a un moment donné, oh, puis il y a une lumière qui s'est allumée. Et il va dire à l'autre, ne crains-tu pas Dieu, toi qui commets les mêmes choses? Toi qui commets, oui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'a pas dit, ta vie est tellement sale, toi, tu as tellement commis de choses atroces, non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Sur la base de ta prière, bien-aimé. Et ce malfaiteur, il tue toutes les formes de religion parce qu'il n'a pu faire aucune œuvre pour gagner son salut puisqu'il avait les deux mains, les deux pieds attachés sur la croix, bien-aimé. C'est sa bouche, c'est ce qui est sorti de sa bouche qui l'a sauvé, bien-aimé. Et les gens ont besoin d'entendre, de vous entendre et de m'entendre des paroles qui sortent de notre bouche pour qu'ils puissent être sauvés à l'extérieur aussi. Sans condamnation, dans la grâce, on va le voir, c'est la dernière, on va se dépêcher, c'est la dernière partie du message. Ce mot « Seigneur » montre aussi l'expression que faisait la femme, que faisait sur la femme la présence et la parole du Seigneur. En Jésus, elle avait un homme qui était différent de tous les autres hommes qu'elle avait rencontrés dans sa vie. En Jésus, elle avait un homme qui l'avait traité non pas avec mépris, mais plutôt avec grâce. Pourquoi n'était-elle pas partie quand les pharisiens avaient quitté les lieux? C'est une bonne question qu'on peut se poser, bien-aimé. Parce qu'elle savait qu'elle avait péché et elle n'a pas essayé de le cacher. Son péché avait déjà été exposé devant la foule. Elle va donc faire confiance à Jésus pour décider de son sort. Finalement, quand vous analysez la situation, c'est plutôt la femme qui s'en est bien sortie. Elle a rencontré Jésus et il a transformé sa vie. Pendant ce temps, l'homme, peu importe qui il était toujours embourbé, lui, dans son péché. Il aurait mieux fait d'être exposé à son péché comme ce fut le cas pour cette femme. Il aurait fait la rencontre de sa vie et il aurait lui aussi été pardonné. Bien-aimés, lorsque nous réfléchissons, comme je l'ai dit tantôt au tout début, nous ressemblons tous à cette femme. Nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu, d'un Dieu trois fois saint. Nous avons tous péché, nous dit l'abbé, mais nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu. Nous n'avons pas par nous-mêmes la capacité de changer notre condition. Nous étions donc tous destinés à être condamnés lorsque nous comparerions devant le Seigneur, ce Dieu trois fois saint, à moins que quelqu'un intervienne pour nous aider. Et c'est là le beau message de l'Évangile qui devient une bonne nouvelle, car juste au moment où nous étions sur le point d'être condamnés, Jésus est intervenu pour vous sauver, pour me sauver, bien-aimé. Amen! Oui, bien-aimé! Ah! S'il avait une seule fois pu penser à son bien-être! Ah! On était perdu pour l'éternité, bien-aimé. S'il avait juste une seule fois pensé à lui, ses petits besoins, on était tous pardonnés, bien-aimé. Est-ce que vous réalisez cela? Quand on appartient vraiment à Jésus-Christ, c'est fini, on arrête de penser à nous, bien-aimé. On ne vit plus pour nous, on ne vit que pour les autres. On doit refléter l'image de Jésus. On doit ressembler à Jésus. Et pardon, Seigneur, si ce n'est pas notre cas ce matin. Pardon! Bien-aimés, on prie pour le salut de nos enfants. Est-ce qu'on prie pour le salut des enfants des gens du monde? Vous pensez que Dieu aime plus vos enfants que ceux du monde? Je vais vous donner le verset, moi. Dieu ne fait pas de favoritisme, bien-aimés. Il aime autant ceux du monde que les vôtres. Il veut autant que ceux du monde appartiennent à son royaume que les vôtres, bien-aimés. J'ai déjà entendu des chrétiens qui ont regardé quelqu'un qui ont dit « Lui, il n'est pas sauvable. humainement parlant, quand tu regardes là, votre locataire à côté, il n'est pas sauvable. Mais la parole dit que Dieu veut que tous parviennent au salut. Donc, pour moi, il n'est pas sauvable, mais pour Dieu. Qui peut résister à la puissance de Dieu, bien-aimé? Et si on a jugé cet homme-là qui nous tombe sur les nerfs de temps en temps, demandons pardon à Dieu parce que ce n'est pas une réaction chrétienne. Vous ne pensez pas que Jésus, avec tout ce qu'il a entendu, avec tout ce qu'on lui a fait subir, qu'il n'avait pas quelques-uns qui ont tombé, qui auraient pu y tomber sur les nerfs, bien-aimé? Quand il voyait ces pharisiens qui mentaient à plein nez, quand il a vu tous les complots qu'on a fait autour de lui pendant tout son ministère, vous pensez qu'il n'y en avait pas qui devaient y tomber sur les nerfs? Mais non, il a prié pour eux. Il a passé des nuits entières à prier pour nous, pour eux. Quel Dieu nous avons, bien-aimés! Quel modèle que nous avons! Quel modèle de sauveur que nous avons, bien-aimés! J'aurais aimé être sur place ce jour-là pour voir le visage de cette femme alors qu'elle se trouvait seule avec lui et qu'elle avait entendu les paroles de Jésus. « Je ne te condamne pas, moi non plus. » En fait, ce qu'il a voulu dire, c'était ceci. « Je ne te condamne pas parce que je serai bientôt condamné à ta place et devenir un objet de malédiction lorsque je mourrai sur la croix pour toi. » Voilà pourquoi il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Ne pêche plus, je ne te condamnerai plus, ne te condamnerai pas. » Il n'a pas dit « Promets-moi que tu ne pêcheras plus, je te condamnerai. » Vous imaginez si notre salut dépendait de ça, bien-aimé? C'est épouvantable, quoi. Il a dit « Je te pardonne et je te donne en même temps le pouvoir d'être libéré d'une vie de péché. » La religion dit « Change ou je te condamne. » La grâce dit « Je t'ai pardonné, laisse-moi aussi changer ta vie. » Amen. Rien ne devrait motiver plus quelqu'un à recevoir la grâce dans son cœur, car la grâce accomplit ce que les règles religieuses ne peuvent jamais, jamais faire. Il est bon de remarquer que Jésus ne minimise jamais le péché dans ce passage. À la question posée par les pharisiens, il ne dit pas « Ouais, c'est pas grave, non, mais c'est pas grave, laissez tomber, ça vaut pas la peine de la condamner, c'est une erreur qu'elle a faite dans sa vie, écoutez, elle n'a pas fait exprès. » Non, absolument pas. Il lui a dit « Va et ne pêche plus. » Même s'il était coupable par la grâce de Dieu, elle repart avec une feuille blanche, tout en ayant reçu une nouvelle vie et une nouvelle puissance en elle. Si vous êtes ou si jamais vous avez été impliqué dans un péché sexuel, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ce que Jésus a fait à cette femme, il le fera aussi pour vous. Vous pouvez être pardonné, purifié et libéré. Nous ne devons donc pas nous étonner que Jésus ait été appelé l'ami des pécheurs, parce qu'il est vraiment l'ami des pécheurs. Jésus est mon ami bien-aimé. Jésus est mon frère aîné bien-aimé. Jésus est mon sauveur bien-aimé. Et j'ai hâte de passer l'éternité dans sa présence bien-aimé. Amen. Amen. On vit dans un moment difficile, probablement vers là, en tout cas, plus près de la fin des temps que la semaine passée. Hein? Voilà. Jésus ne nous a pas demandé d'essayer de découvrir dans la Bible s'il viendrait avant les tribulations, pendant les tribulations ou après. Vous savez ce qu'il dit? Soyez prêts. Tout ça. Est-ce qu'on est tous prêts aujourd'hui à voir arriver le Seigneur Jésus dans sa gloire et chercher son Église bien-aimée? Ça sera magnifique. Mettre fin à tous ces abus de toutes sortes à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Finalement, l'ironie de cette histoire, c'est que les pharisiens religieux, bien pensants et hyper spirituels, sont repartis condamnés, alors que cette femme coupable d'adultère, sujette à être lapidée, est repartie pardonnée. L'histoire aurait pu se terminer là, mais il y a une deuxième chose que Jésus va faire avec quelqu'un dont le cœur est en lambeaux. Car lorsque vous venez à Jésus, il vous accorde sa grâce. Lorsque, dans un esprit de repentance, vous lui confessez votre péché, il vous accorde son pardon. Et lorsque vous marchez dans l'obéissance de sa parole, vous pouvez compter sur sa présence en tout temps dans votre vie, bien-aimé. La repentance, bien-aimé, c'est un mot qu'on a mis de côté dans nos églises, malheureusement. La repentance, Actes chapitre 3, verset 19, premier message évangélique prêché. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, dit Jean-Baptiste quand il voit arriver Jésus. Et Pierre ajoute, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance, bien-aimés. Paul, dans Corinthiens, nous parle de la différence entre la vraie et la fausse repentance. La fausse repentance, elle vient de produire la mort. La vraie repentance, elle produit la vie dont la personne qui s'est vraiment repentie ne se repent jamais. Quelqu'un qui ne se repent pas ne peut pas naître de nouveau, bien-aimé, parce que ses péchés ne peuvent pas être effacés. Ils sont toujours dans le livre. Voilà pourquoi le message de l'Évangile est important d'être prêché comme il était prêché. Bien-aimé, on cherche toutes sortes de méthodes pour l'évangéliser, bien-aimé. L'évangélisation, ce n'est pas une question de méthode. C'est une question de ta qualité de vie, ta relation que tu as avec ton Seigneur qui va toucher le cœur des gens. Vous savez, moi, j'ai 6 frères et 1 sœur. Hein, je suis l'aîné. J'étais le mouton noir de la famille. Hein. Moi, j'en ai fait voir de toutes les couleurs, non seulement à mes parents, mais aussi à mes frères et à ma sœur. Et quand je suis allé leur parler de ma nouvelle, de ma rencontre avec le Seigneur Jésus, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Genre qu'on t'aimait mieux avant. Spécial, hein? Spécial, hein? Ouais. On t'aimait mieux avant, t'étais plus drôle. Ouais. C'est fort, hein? Il y en a un autre, je me souviens, moi, c'était un ivrogne de la pire espèce, il avait plus de 65 ans. Et aux intersections, un peu comme ici, il y a des feux rouges, verts, hein, et jaunes. Là. Nous, on appelle ça jaune, vous dites orange ici en Belgique. Mais disons qu'ils sont moins oranges qu'en Belgique, quoi. Donc on dit qu'ils sont jaunes. Et ça allait à peu près 4 mètres de haut. Et à l'époque, les gros verres de bière dans les tavernes, ça coûtait 10 centimes. Et lui, bien, vu qu'il en avait besoin, on s'amusait avec lui. Et on lui disait, écoute, pour 10 centimes, monte le grain. Mais écoutez, c'est quand même quelque chose de en métal, quoi. C'est très difficile pour lui de monter. Il n'avait pas rien pour s'agripper, quoi. Alors, il trouvait le moyen pour aller toucher. On lui disait, va toucher au feu vert. Il allait toucher au feu vert. Et il ramassait, là. Ah, il montait 4-5 fois. 4-5 fois. Et on riait, on se moquait, hein. On se moquait de lui, hein. 4-5 fois. Ça, il donnait 50 centimes, il était bon pour passer son avant-midi à la taverne puis boire. Et quand il s'est converti, là, ah, il était plus drôle, c'était plus drôle du tout. Et il ne nous amusait plus, là. On était déçus qu'il s'était converti. Moi, je ne comprenais pas à l'époque. Hein. On était déçus. On lui a dit, écoute, on t'aimait mieux quand tu étais sous. Hein. Ah, ben c'est ça le monde, bien-aimé. C'est ça. Hein. Ouais. Quand vous reflétez la lumière, là, étant dans les ténèbres, là, vous brillez tellement là, qu'il préférait vous rencontrer comme vous étiez dans le passé. Parce que vous les éblouissez, bien-aimés. Parce qu'en étant la lumière du monde, vous mettez en lumière ce qui ne va pas dans leur vie. Jean chapitre 3, verset 18, Jésus a dit, vous refusez la lumière parce que vous ne vous voulez pas renoncer aux œuvres, à vos œuvres qui sont dans les ténèbres. Bien-aimés, renoncer à son péché, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu tout un combat pour renoncer à mon péché. C'était soit ça, c'était soit renoncer ou c'était soit d'accepter de renoncer à mon péché, sinon je ne pouvais pas avoir le Seigneur. On peut faire des compromis dans notre vie, mais jamais, on va faire Dieu complice de nos péchés, bien-aimés. Jamais. Bon, rapidement en terminant, Jésus condamne-t-il la femme? Non. Condamne-t-il son péché? Bien sûr, il l'aimait, mais il détestait la vie qu'elle menait. Et ce passage n'enseigne pas que vous ne pouvez pas appeler mal ce qui est mal. Cette histoire n'enseigne pas que nous ne pouvons pas juger les actions commises par certains qui sont contraires à la parole de Dieu. Regardez bien la nuance, écoutez bien ici. Parce que Jésus n'était pas en train de suggérer ici que seuls ceux qui étaient sans péché pouvaient juger les autres, étant donné qu'il était le seul qui était sans péché parmi tous ces gens. Il a toujours jugé le péché comme étant un péché. Nous n'avons pas seulement le droit, écoutez bien, c'est important, nous n'avons pas seulement le droit de condamner ce que la Bible condamne, mais nous avons aussi la responsabilité de condamner ce que la Bible condamne. Cela fait aussi partie de la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Je vais vous dire sur quoi je me base, c'est pas Jean Cudeau qui vous dit ça, là. Je vais vous dire, c'est la parole. L'homme qui a l'Esprit de Dieu, l'homme spirituel, l'homme qui est né de nouveau, peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Moi, ça me donne des boutons quand j'entends quelqu'un qui me dit « Hey, t'as pas le droit de me juger. » Souvent, ces gars-là, là, c'est parce qu'ils ont un péché dans leur vie. Hein. Je te juge pas. Hein. Il y a une différence entre on n'est pas là pour juger la personne. Écoutez bien la suite. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger car il a la pensée du Christ. En fait, personne ne peut me juger si je juge quelqu'un sur la base de ce que la parole dit. Pas sur ce que moi je pense qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Parce que la personne elle me dit, toi tu penses que ça c'est bien, moi je pense que c'est mal. Alors qui a raison? Par contre, on cite les Écritures, bien-aimés. Et encore une fois, écoutez bien, je ne dois pas juger le voleur, mais juger le vol. Je n'ai pas à juger la personne, ça c'est le problème de Dieu, ça, bien-aimé. Mais juger ce qu'il a fait, si je ne lui dis pas que c'est mal ce qu'il a fait, bien, il va toujours continuer, bien-aimé. Parce que pour lui, ça fait des années qu'il fait ça. Donc pour lui, c'est devenu quelque chose de normal. Je ne peux pas juger de voleur, mais je ne dois pas juger le menteur, mais je dois juger son mensonge. Je ne dois pas juger l'adultère, mais je dois juger son péché d'adultère. Condamner les péchés n'est même pas la chose. Condamner le péché n'est pas la même chose que juger le pécheur. En fait, Jésus a dit deux choses en même temps à cette femme et les deux vont ensemble. Il a dit, je ne te condamne pas, mais je condamne ce que tu as fait. Va et ne pêche plus. C'est ça qui est toute la différence. Ce n'est pas à nous à juger le pécheur, bien-aimé. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de Dieu. Dieu nous aime, bien-aimé, tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. La raison pour laquelle Jésus nous donne la grâce et la raison pour laquelle Jésus enlève notre culpabilité, c'est pour nous amener à craindre Dieu afin de vivre dans l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas Jean Cudeau qui vous le dit, je vais vous donner le verset. Psaume 130, verset 4. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. L'effet que produit la crainte de Dieu, c'est la paix associée à une vie juste. Bien-aimé, le problème dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on a perdu de vue la crainte de Dieu, bien-aimé. On voit les mêmes péchés dans l'Église qu'on le voit à l'extérieur, bien-aimé. La crainte de Dieu. J'espère que vos vies sont tous en règle avec le Seigneur ce matin, parce que vous pouvez dormir cette nuit, puis il y a quelqu'un là, qui joue là, avec des manettes là, en poids Russie, puis il a lancé une bombe nucléaire ici à Belgique, hein, pendant que vous dormez. Hein. Vous ne savez pas ce que nos grands saumons sont en train de nous préparer, bien-aimés. On ne se rencontre pas comme ça à droite et à gauche. Hein. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avant la guerre 39-45 et avant la guerre 14-18. Hein. Tout le monde se promenait. Hein. Tout le monde se promenait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Un paquet de bombes sur la tête. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est de se rappeler constamment que nos vies dépendent de Dieu, que le battement de mon cœur ne dépend pas si je suis en forme ou pas. Ça dépend si Dieu dit, écoute, je te rappelle à toi maintenant, je te rappelle à moi, tu y vas, hein? Tu peux crier et faire battre ton cœur, c'est fini. Hein? Avant même que vous veniez au monde, Dieu connaissait le nombre de milliards de battements de cœur que vous auriez. Et quand ce nombre-là va arriver, clic, tu t'en viens en haut, quoi. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez prêts. Soyez prêts, on devrait être prêts en tout temps. Bien-aimés, il y en a pour certains que le péché, c'est comme un bonbon de friandise, qui a bon goût, mais qui détruit à l'intérieur, bien-aimés. Charles Finney disait, le péché, c'est comme un poison mortel qui cherche à te détruire, à te tuer pour l'éternité. Et il avait raison. Il avait raison, bien-aimé. Moi, je prie qu'il y ait un réveil, hein. Un réveil dans ma propre vie, que Dieu puisse me brasser un peu, afin que je puisse, non pas y consacrer un certain temps par jour, mais que mon temps puisse être entièrement consacré à lui, bien-aimé. Afin qu'il puisse œuvrer à travers moi et à travers vous. Le pardon n'est pas un laisser-passer pour sortir de prison. J'ai trompé ma femme aujourd'hui, je confesserai demain mon péché à Dieu pour qu'il me pardonne et tout sera oublié. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. À partir du moment où vous êtes trouvé devant Dieu avec votre péché, que dans sa grâce, il vous a pardonné, vous prenez la décision de renoncer à vivre comme avant. La culpabilité de votre péché et la grâce devraient vous conduire à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cette femme n'était pas triste parce qu'elle s'était fait prendre. Elle était triste parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas convertie. Elle avait été convaincue de péché, elle s'était convertie. Elle n'avait pas eu seulement des remords comme le roi Saül, elle s'était vraiment repentie. Bien-aimé, en examinant avec soin ce passage, nous nous retrouvons tous finalement dans cette histoire, et je termine avec ça, rapidement. Soit vous êtes le pharisien, ou soit vous êtes la femme. Comment le savoir? Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire, parce que malgré les années qui passent, vous ressentez toujours cette amertume et cette colère envers votre conjoint ou envers ce conjoint qui vous a quitté pour une autre femme. Et jour après jour, vous tenez une pierre, vous tenez toujours une pierre dans votre main. Peut-être que vous êtes un pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à vos parents, que vous portez plus attention à vos autres frères et sœurs à la maison qu'à vous. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à ce patron qui vous a injustement licencié parce que vous avez refusé un jour ses avances et jour après jour, vous tenez toujours une pierre dans votre main. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à cette école qui vous a refusé parce que vous étiez différent des autres. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à cet homme de loi qui agissait comme un hors-la-loi, et jour après jour, vous tenez toujours cette pierre dans votre main. Si vous êtes le pharisien dans cette histoire ce matin, il est temps pour vous de lâcher la pierre que vous tenez dans votre main. Peut-être que vous êtes la femme dans cette histoire. Peut-être que vous êtes la femme dans cette histoire. Vous êtes brisé, voire même anéanti ce matin. Vous vous sentez coupable parce que vous avez fait ou qu'on vous a fait des choses dans le passé dont vous avez toujours honte et que vous ne vous en êtes jamais remise. Peut-être que vous êtes anéanti suite à ça, des petits morceaux de votre vie, et suite à ça, des petits morceaux de votre vie continuent jour après jour de tomber sur le sol. Il est temps pour vous de laisser tomber cette pierre aussi que vous tenez dans votre main. Vous êtes peut-être en train de vous dire, « Vous ne savez pas ce que j'ai fait, moi, Jacques, et vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. » Non, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que si vous continuez à vivre une vie misérable et destructrice, restez dans le même métier de lanceur de pierres, car seuls les gens misérables et malheureux continuent à lancer des pierres à ceux qui leur ont fait du mal. Cependant, permettez-moi de vous dire qu'une fois que vous aurez pris la décision de vous en remettre entre les mains de Jésus, tout ce que vous voudrez, c'est quitter ce métier de lanceur de pierres, parce qu'il est beaucoup plus apaisant, plus doux et plus réconfortant de goûter à la grâce de Dieu que de lancer des pierres pendant toute votre vie à ceux et celles qui vous ont fait du mal. Si c'est là votre décondition ce matin, venez vers celui qui est non seulement mort sur la croix pour vos péchés, mais qui est revenu de la mort à la vie, vous donnant ainsi une espérance vivante, celle de la résurrection des morts. Non seulement il ne tient aucune pierre dans sa main, mais il a le cœur rempli de grâce et d'amour qu'il veut déverser dans votre cœur ce matin. Il vous dit, « Si tu viens à moi tel que tu es, j'ôterai ta culpabilité, je te libérerai et je la remplacerai par une paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. » Non seulement je sais comment prendre tous ces morceaux brisés de ta vie, dit Jésus, mais je sais comment les transformer de façon à ce qu'ils deviennent pour toi un sujet de bénédiction. Peut-être que certains d'entre vous pensent que Jésus veut ramasser tous ces morceaux brisés et les remettre ensemble dans un ordre parfait et restaurer en vous ce que vous étiez avant que votre vie ne soit brisée et anéantie à travers toutes sortes d'expériences douloureuses. Absolument pas. Jésus ne veut pas vous ramener à ce que vous étiez autrefois et faire de vous une meilleure personne. Il veut prendre tous ces morceaux brisés, vous transformer pour faire de vous une toute nouvelle personne dont toute la culpabilité du passé est disparue et dont toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce, par la grâce de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17. Car voyez-vous, ce que Jésus veut faire, c'est prendre tous ces morceaux brisés de votre vie et vous transformer à son image et à sa ressemblance, bien-aimés. Faire de vous un homme nouveau, pas faire de vous un homme et une femme rapiécés, comme un casse-tête. Vous savez, un casse-tête, c'est beau quand c'est fini, mais on voit toutes les traces dedans. Ben, c'est pas ce que Jésus veut faire, hein. Il veut pas vous remonter puis que finalement toutes les traces de votre vie passée apparaissent. Non. Faire de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu pour cela, bien-aimé. Venez à Jésus tel que vous êtes, il vous donnera sa grâce, il ôtera votre culpabilité, il vous libérera de votre péché, il vous conduira dans sa paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, et il transformera tous vos brisements, afin que ce soit une grande bénédiction pour votre prochain.